commence le dossier de l'émission, donc sur les enjeux de la psychiatrie aujourd'hui. On reçoit Patrick Coupchou, qui est journaliste au Monde diplomatique et qui a sorti au Seuil récemment, en 2006, je crois, printemps 2006, Un monde de fous, comment notre société maltraite ses malades mentaux. Ce qui va donc être l'occasion d'aborder en fait toutes les exclusions qui sont liées à la maladie mentale dans la société actuelle. Et puis de revenir un peu sur justement la fois dernière, en fait, le 10 janvier, on avait fait l'émission sur le désaliénisme, donc sur une remise en cause de tout ce qui avait fondé la psychiatrie jusque-là, quoi, sur l'asile, sur le statut du psychiatre, etc. Et puis on va voir qu'aujourd'hui que les choses ne sont pas acquises, qu'au contraire on est en train de revenir à une conception assez archaïque, en fait, de la psychiatrie, enfin du moins de l'hôpital psychiatrique. On va discuter de tout ça. Et peut-être pour commencer, pour essayer de se repérer un peu, vous pourriez nous parler du paysage psychiatrique actuellement. Quelles sont les structures qui existent? Comment ça fonctionne actuellement, la psychiatrie en France?
Bon, on va parler dans le détail de toutes les structures, parce que je ne sais pas si c'est très intéressant en soi. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est un petit peu l'évolution depuis une vingtaine d'années, un peu plus. Et l'évolution, c'est la sortie de l'asile traditionnel. C'est-à-dire qu'on a fermé des dizaines de milliers de lits, on a mis les gens dehors, et on a essayé de remplacer tout ça par une série de structures décentralisées, comme les CMP, par exemple, où on peut se rendre effectivement dans un quartier, les centres médicaux psychologiques, et donc qui sont des structures décentralisées. Mais si vous voulez, on n'a pas remplacé l'asile ancien par le nombre de structures, la qualité des structures qui seraient suffisantes pour que les malades mentaux puissent vivre normalement dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, on a fermé des lits, mais en face, on n'a pas créé les structures suffisantes pour qu'ils puissent arriver et vivre dans un contexte où ils puissent vivre normalement dans la société, quoi. Donc c'est ça un peu la tendance. Mais c'est une tendance qui va encore s'accélérer. C'est-à-dire que l'asile a une image très, très mauvaise. Mais on y reviendra, je pense, dans la discussion. Mm-hmm. En même temps, il coûte cher. Le système actuel, le système libéral actuel, pousse un petit peu à la sortie de l'asile. Alors, quand je dis la sortie de l'asile, c'est la sortie de l'asile traditionnelle, c'est-à-dire l'hôpital, c'est-à-dire l'endroit où il y avait des murs avec des pavillons et où on enfermait les gens. Ça ne veut pas dire que l'asile n'existe plus. C'est-à-dire qu'on peut être en dehors de l'hôpital et encore être à l'asile. C'est-à-dire que l'aliénisme peut poursuivre les gens qui ont été victimes pendant des années, en ce sens qu'un malade mental, il faut s'en occuper, il faut le suivre, il faut persévérer dans le lien qu'on a avec lui. Et que si on le laisse, s'il y a rupture, c'est de nouveau l'asile. C'est-à-dire que c'est de nouveau l'exclusion, c'est de nouveau l'abandon. Donc voilà un petit peu la situation actuelle. Mais on peut en dire plus si vous le souhaitez.
Mais pourquoi pas? Mais déjà revenir sur sur ce dont on avait parlé un peu il y a deux semaines. Il y a pas mal de personnes qui étaient encore en vacances, donc peut-être revenir justement sur cette histoire qui précède notre période immédiatement contemporaine, sur cette remise en cause de l'asile et justement comment ça a évolué en fait jusqu'à la situation après qu'on va aborder.
Alors, en fait, si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que on a quand même la période de l'asile qui court sur 150 ans. Rassurez, je ne veux pas faire d'histoire, mais simplement pour remettre un peu en perspective les choses, qui court sur 150 ans, qui date de Pinel, qui date de la Révolution française. Avant la Révolution française, il y avait l'hôpital général de l'Ancien Régime, où on enfermait les fous, les déraisonnables, les opposants, les pauvres, dans un même endroit, par exemple à Kremlin-Bicêtre, à Bicêtre ou à la Salpêtrière. Et quand la Révolution française arrive, elle libère évidemment tous ces gens-là qui avaient été enfermés par l'aide de cachet. Elle s'oppose à l'absolutisme, donc elle les libère, mais elle ne libère pas les fous. Et donc on crée l'asile, pour être schématique. On crée l'asile, au lieu que ce soit un endroit où on enferme les gens comme ça, d'une façon totalement arbitraire, on en fait un lieu médical. Et le patron de tout ça, c'est ce que Michel Foucault appelait le personnage médical, c'est-à-dire que c'est le médecin qui va devenir le grand patron de tout ça et qui va s'occuper des fous. Donc l'affaire de l'asile, si vous voulez, on pourrait discuter beaucoup là-dessus, c'est que au départ, il y a tout un aspect positif, c'est-à-dire qu'on veut soigner les gens, on veut essayer de comprendre la pathologie qui est la leur, on essaye de faire en sorte que l'hôpital soit effectivement un moyen de thérapie, mais très vite, ça va devenir un lieu carcéral. Et pendant 150 ans, on va avoir des gens qui vont être enfermés pendant toute leur vie, pendant 20 ans, pendant 30 ans. En fait, c'est quelque chose d'épouvantable. On a des témoignages là-dessus qui sont terribles, non seulement du point de vue des libertés telles qu'on peut les concevoir aujourd'hui, mais aussi même du point de vue de la pathologie. C'est-à-dire que l'une des grandes leçons qu'on tire à partir du 45, enfin de l'occupation, plus spécialement par rapport à l'asile, c'est que l'asile non seulement renforce, mais peut créer la pathologie.
Oui, justement, qui est considéré comme fou pour aller dans ces asiles à cette époque-là?
Si vous voulez, c'est une question un petit peu difficile, parce que effectivement la limite entre les gens qui sont fous, qui sont pas fous, parfois elle est difficile à bien tracer. Cela dit, un psychotique, un schizophrène qui délire, il a besoin d'aide. Et là-dessus, pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a pas photo. Donc pendant toute une période, on disait, ces gens-là, on les enferme à l'asile. Et ça permettait de régler plein de choses, quand on y songe. C'est-à-dire que d'une part, c'était la paix des familles et la paix sociale, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne perturbaient personne, ils étaient enfermés. Il faut s'imaginer qu'il y a des gens qui retraitent toute leur vie, ce que je disais tout à l'heure, hein, toute leur vie. Donc on réglait toutes les questions, ils étaient neutralisés, ils gênaient plus personne. En même temps, on faisait face à la fois à la crise, c'est-à-dire le moment où le malade mental est le plus perturbateur, où il délire complètement, où il pète un plomb, et puis on faisait face à ce qu'on appelle aussi la chronicité, c'est-à-dire que la maladie mentale, on ne s'en guérit pas comme d'une grippe, on l'a toujours. Donc il y a des périodes de crise, et entre les périodes de crise, il y a cette période qu'on appelle chronique. Mais Lucien Bonafé, par exemple, l'expliquait, le grand psychiatre des aliénistes de l'après-guerre, je crois que j'en avais parlé il y a deux semaines, il disait, dans l'asile, on sédimente la maladie. C'est-à-dire que l'institution, et j'emploie le terme à dessein, puisqu'après il va y avoir toute une école qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, qui va se donner comme objectif de travailler sur l'institution, justement, mais l'institution telle qu'elle existe dans l'asile fait que les malades se sédimentent. C'est-à-dire qu'on est loin de la guérison, on est au contraire dans une espèce de sédimentation, d'installation dans la pathologie, et finalement, ben, c'est une chose sans issue. Alors qu'est-ce qui se passe à partir de... Les premières choses, c'est le Front populaire. Il y a des décrets du Front populaire qui transforment les asiles en hôpital psychiatrique, qui créent le diplôme d'infirmier. Mais c'est encore très timide. Il y a quelques ouvertures avant-guerre. Mais qu'est-ce qui se passe pendant l'occupation et après-guerre? Il se passe la chose suivante. C'est que, la guerre bouleverse le système. Je vais vous donner un exemple qui est absolument significatif. Il y a eu certains hôpitaux psychiatriques en France qui ont été bombardés pendant la guerre. Et les gens... Les fous, ils sont sortis de l'asile, ils sont partis, tout était désorganisé. Et il y en a 30 ou 35% qui sont jamais revenus, ou 40% qui sont jamais revenus. Alors peut-être qu'il y en a certains qui sont morts, mais la plupart, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont retournés dans la société, alors qu'ils étaient enfermés depuis 15 ans, depuis 20 ans. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que les psychiatres, les jeunes psychiatres qui vont être à la source de l'aliénisme, ils font vite le rapprochement entre les camps de concentration nazis qu'on découvre en 1945, et puis ce qui se passe dans les asiles. Et il ne faut pas oublier que pendant l'occupation en France, il y a eu 40 000 personnes, 40 000 malades mentaux, qui sont morts de faim. Et vous avez dans un film, Bonafé dit, mais nous, les pathologies concentrationnaires, on connaissait. Dans les asiles, c'était le cas. Les gens étaient enfermés, les gens étaient cachexiques, les gens n'avaient rien à manger, et les gens mouraient. Et il y a eu des témoignages extraordinaires là-dessus. Mais le problème, c'est que c'est toujours resté un tabou. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, on a du mal encore à en parler. Et pourtant, il y a eu 40 000 personnes qui sont mortes. De la même façon qu'il y a eu 70 000 personnes, malades mentaux, qui ont été massacrées par les nazis sous le régime de Hitler. Donc ces jeunes psychiatres, qu'est-ce qu'ils font? D'un seul coup, ils découvrent qu'il y a une correspondance entre ce qu'ils découvrent des camps de concentration et ce qu'ils ont vécu dans l'asile. Donc il y a une volonté extraordinaire, mais... Je vais revenir là-dessus. Je pense que c'est lié à l'évolution générale de la société. Il y a une volonté extraordinaire qui naît, en particulier pendant l'occupation, qui est d'en finir avec l'asile. Il faut briser l'asile. Il faut briser l'asile. Bonafé, pour revenir à lui, disait que c'est en gros... l'asile, c'était la barbarie. Et je pense qu'il avait raison. L'asile, c'était la barbarie. Alors il se trouve que... Il y a un endroit mythique, je pense que vous avez dû en parler il y a deux semaines aussi.
Saint-Alban.
Voilà, qui s'appelle Saint-Alban, qui se trouve en Lozère. J'y suis allé en juin, là, parce qu'il y a toujours chaque année, un colloque qui se tient avec les psychiatres les plus progressistes qui existent encore aujourd'hui. Et à Saint-Alban, qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous avez à Saint-Alban, c'est paumé, hein, c'est dans le fin fond de la France profonde. Et là, c'est à la fois le vieil asile, qui était tenu par des bonnes sœurs, avec un directeur d'asile qui prend conscience qu'il se passe des choses terribles dans les asiles en France, y compris pendant l'occupation. Et puis, il y a des gens comme Bonafé, il y a des gens comme Jean Houry qui passent aussi, et ça devient un foyer à la fois de réflexion sur la psychiatrie, un foyer de résistance, et se rencontrent dans cet asile emblématique, les gens tenant de la psychanalyse, les gens tenant du marxisme, tout ça dans une atmosphère de résistance, et tout ça sous la houlette d'un type absolument génial qui s'appelle François Toscaïès, qui vient d'Espagne, qui a été psychiatre dans les rangs de la République et qui a fait une psychiatrie très avancée dans les rangs de la République et qui arrive à Saint-Alban. Vous avez aussi des gens comme Tristan Tzara, des gens comme Paul Éluard, vous avez plein de gens comme ça qui viennent, et c'est un bouillonnement, et on cache des résistants, et on fait de la résistance, et les fous sont au courant, et les fous ne disent rien, et les fous ne dénoncent pas, et les fous ne racontent pas d'idiotie pour que les types se fassent arrêter. Donc vous voyez, et là, on crée une sorte de mouvement qui s'appelle la Société du Gévaudan, et la Société du Gévaudan, c'est, quand Toscaïès raconte, il dit, le soir, on dormait pas, alors on refaisait le monde, et on refaisait la psychiatrie. Qu'est-ce qui sort de ça ? Il sort un grand courant qu'on appelait le courant des aliénistes, avec deux branches, mais deux branches qui ne sont pas séparées, qui sont liées. D'un côté, ce qui va être le secteur, qui va être porté par des hommes comme Bonafé, Daumaison et des gens comme ça. Le secteur, c'est quoi ? Le secteur, c'est dire on va en finir avec l'asile. On veut en finir avec l'asile, ça c'est clair. Donc on va sortir les fous de l'asile et on va les remettre dans la cité. Là où ils doivent être, c'est-à-dire avec les autres hommes. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, c'est pas aussi simple. On peut pas, il suffit pas de simplement, hélas, on le voit aujourd'hui, il suffit pas simplement de mettre les malades mentaux dans la rue pour qu'ils soient dans la cité. Donc pour que ce soit possible, on échafaude toute une théorie. On crée en particulier un concept qui est très 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 important, qui est le concept de l'équipe. C'est-à-dire qu'on remet en cause le pouvoir médical du psychiatre, le fameux personnage médical dont je parlais tout à l'heure, dont parlait Michel Foucault, c'est-à-dire cette espèce de pouvoir médical qui dit que finalement, comme disait Bonafé, moi, le malade c'est ma chose et c'est moi qui vais le traiter. Ces psychiatres se rendent compte que la maladie mentale, ça ne se traite pas comme ça. Parce que la maladie mentale, c'est à la fois, elle peut avoir à la fois peut-être des origines biologiques, c'est aussi l'aliénation sociale, c'est aussi l'aliénation psychopathologique. Tout ça, c'est les apports du marxisme, des sciences humaines, de la psychanalyse, etc. Donc, l'équipe, c'est la remise en cause de la toute-puissance du psychiatre, c'est le fait qu'on dit que tout le monde peut être un soignant, en particulier les infirmiers, les aides-soignants, même la femme de ménage, même les autres malades eux-mêmes. C'est-à-dire que, vous voyez, la vision qu'on a, c'est plus une vision hospitalo-centrée, comme on dit, ou médicale, purement médicale, qui serait copiée sur le modèle somatique. C'est vraiment, on va agir sur l'environnement avec tous les acteurs possibles pour que, effectivement, le lien se crée et que le malade puisse vivre dans la société. C'est absolument révolutionnaire. C'est absolument révolutionnaire parce que, si vous voulez, on est quand même... sur le fond de tout ça, il y a une vision, mais je vais y revenir, très humaine de la folie. Le deuxième mouvement qui est lié, puisque tout ça est né dans la matrice de Saint-Alban, mais qui est le premier, la figure emblématique dont je disais, c'est Bonafé. Le deuxième mouvement, c'est ce qu'on a appelé donc la psychothérapie institutionnelle, dont les grandes figures sont Toscaïès, justement, et Jean Houry, qui vit toujours, qui a été d'ailleurs le préfacier du bouquin, et qui est le directeur actuel de la clinique de la Borde, toujours de la même façon. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que l'institution, ce que je vous disais tout à l'heure, l'institution crée la pathologie ou au moins la renforce. Donc il faut travailler sur l'institution. Et quand ils disent institution, ils ne disent pas établissement. Ce n'est pas l'hôpital. L'institution, c'est ce qu'on met en œuvre à partir d'un moment donné, avec une équipe, avec la vie, avec les gens, avec les relations entre les malades, comment on organise la vie, etc. C'est là-dessus qu'il faut jouer, c'est là-dessus qu'il faut agir pour que, effectivement, le traitement puisse avoir lieu. Et bon, le lieu emblématique de la psychothérapie institutionnelle, il y a beaucoup encore en France aujourd'hui, hein, mais c'est donc, je disais à l'instant, la clinique de la Borde, la clinique de Jean Houry. Les deux mouvements n'ont jamais été opposés, puisqu'ils sont nés dans le même creuset, et que fondamentalement, même si les choses en psychiatrie sont jamais tous d'accord, mais ce que je veux dire, même si fondamentalement, même s'il y avait quelques points de désaccord sur des choses secondaires, sur le fond, ils se retrouvent sur la même vision, qui est une vision, et j'insiste là-dessus, qui est une vision humaine de la folie. C'est-à-dire que le fou, et je vais faire juste un petit rappel historique, en 1945, quand on développe toutes ces théories-là, peut-être pour la première fois d'une façon aussi forte, à la fois dans la théorie, mais aussi dans la pratique, c'est-à-dire dans la pratique, dans la clinique, dans la façon d'agir, on affirme cette chose extraordinaire que le fou est un homme. Et que non seulement le fou est un homme, mais la folie fait partie intégrante de l'humanité. On l'a eu, ça. Par exemple, le philosophe Hegel disait la folie, en gros, la folie, c'est le privilège de l'homme. Donc vous voyez, ce n'est pas des idées qui sont tout à fait nouvelles, mais c'est des idées qui sont prises à bras-le-corps, et d'un seul coup là, on affirme ça. Demain, je peux être fou. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas fou? Et qu'est-ce qui fait que le fou serait autre, alors qu'en fait, il n'est pas autre du tout? La folie est une potentialité de l'humanité, la folie est un aspect de l'humanité. À partir de là, c'est très important, parce que ça veut dire qu'on ne les exclut plus, si on considère qu'ils sont des humains. On ne les met plus dans les asiles, on ne les met plus dans la rue, on ne les met plus je ne sais pas où, on ne les brûle plus comme au temps du Moyen-Âge. On les réintègre, on les aide à se réintégrer dans l'humanité. Et ça a été, me semble-t-il, au-delà des discussions sur ce que c'est que le secteur, etc., etc., je pense que c'est ça qui est la chose la plus importante de ce qui est sorti de cette période, cette vision humaine de la folie qui permet de réintégrer l'homme fou dans l'humanité et de faire ce qu'il faut pour ça. Et c'est, je pense, ce qui est en train d'être remis en cause aujourd'hui dans notre société actuelle.
Et précisément, qu'est-ce qui reste aujourd'hui du secteur et de la psychothérapie institutionnelle? Quels sont les lieux, en fait, où ça continue à se faire? Et est-ce que c'est des lieux qui sont devenus minoritaires ou bien...
Si vous voulez, moi, je crois que c'est assez compliqué, cette histoire, parce que finalement, ça a toujours été minoritaire. Je pense que ça a toujours été minoritaire. Et quand vous lisez les réflexions de gens comme Domaison, comme Bonafé, la fin de leur vie, ils sont un petit peu, pas amers, mais quand même, ils font pas un bilan toujours très, très... Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une minorité de psychiatres qui se sont battus là-dessus, et de penseurs, de théoriciens, bon, qui ont avancé ces idées-là. La grande majorité, l'écrasante majorité, en particulier la psychiatrie qui était liée à l'université, n'a jamais tellement suivi. Elle a traîné les pieds. Sauf qu'il y a eu un moment dans les années 60 où ces gens-là se sont retrouvés avec certains éléments qui appartenaient à l'État. Par exemple, au ministère de la Santé, il y avait des hauts fonctionnaires et des gens comme ça qui avaient l'oreille à tout ça. Ce qui fait que le secteur est devenu, d'ailleurs officiellement dans une loi de 85, mais il y avait eu un décret en 60, est devenu la structure de base de la psychiatrie française. Donc le secteur existe toujours. Par exemple, si vous avez un problème psychique aujourd'hui, vous allez vous adresser au secteur dont dépend votre domicile. L'idée de départ, qui était l'idée de Bonafé, c'était de dire, c'était une très très bonne idée, on crée une équipe sur un secteur de 70 000 habitants. Alors on dit 70 000 habitants parce qu'il y avait des choses du côté de l'OMS qui disaient qu'il faut tant de lits pour tant de malades. Donc on était parti sur cette idée-là. Et comme il y a une école publique dans chaque quartier, il y aura un secteur dans chaque quartier également. Le problème, si vous voulez, c'est que tout l'engagement, toute la philosophie de ce qu'avait été le secteur après-guerre, c'est-à-dire le fait qu'il fallait en finir avec l'hôpital, qu'il fallait en finir avec la toute-puissance du psychiatre et toutes ces choses-là, ben, c'est pas parce que vous aviez changé la structure administrative que ça avait disparu. Donc on arrive à un bilan où, si vous voulez, le secteur est devenu avant tout un truc administratif, une façon d'organiser l'espace hospitalier, finalement, assez loin de ce qu'avaient pensé quand même les tenants du secteur au départ. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. C'est que quand Jacques Ralite, le ministre communiste de la Santé, en 81, donc est arrivé au ministère, il a demandé un rapport sur la psychiatrie qui a été fait par un psychiatre qui s'appelle Demey. Et dans ce rapport, qui est un rapport dont je parle dans le bouquin, qui est un rapport extraordinaire, parce qu'en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut sortir de l'hôpital complètement. On va créer des établissements publics de secteur qui vont avoir la responsabilité de la psychiatrie sur un secteur, mais dans lequel on va trouver pas simplement le psychiatre, mais l'équipe psychiatrique, bien entendu, mais autour d'équipes psychiatriques, les syndicats, les associations, les élus. Vous voyez, qu'on sorte de l'hôpital et de ce rapport au médecin. L'hôpital n'étant qu'un moyen parmi d'autres, mais surtout pas le moyen central. Aujourd'hui, on est à l'inverse. Aujourd'hui, tout est centré sur l'hôpital. Donc, sur le secteur, on est arrivé dans cette situation où, effectivement, bon, on est dans une où le secteur est devenu quelque chose d'assez administratif, voire parfois bureaucratique. Je vous rappelle qu'il arrive parfois qu'on refuse d'accueillir un SDF parce qu'il n'est pas domicilié sur le secteur. C'est arrivé, ça arrive. Mmh. Évidemment qu'il n'est pas domicilié sur le secteur puisqu'il n'y a pas de domicile. Donc là, on a des petites choses comme ça. Mais cela dit, il y a des expériences qui continuent et ça dépend souvent du psychiatre qui s'en occupe. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis à la Bondy ou chez Bayon, bon, Guy Bayon, bon, mais il y en a d'autres. La psychothérapie institutionnelle aussi. J'ai parlé de la Borde, à Landerneau, par exemple, il y a aussi des choses très intéressantes. À Angers, il y a des choses très intéressantes. Mais si vous voulez, on est quand même dans une situation où ça dépend beaucoup du psychiatre. Or, l'écrasante majorité aujourd'hui de la psychiatrie n'est plus sur ce terrain-là. L'écrasante majorité de la psychiatrie aujourd'hui est dans la biopsychiatrie, dans le médicament, dans l'ordonnance, dans un schéma qui vient des États-Unis, mais que la psychiatrie majoritaire en France a accepté sans problème, elle n'est pas dans cette démarche de secteur de psychothérapie institutionnelle. C'est encore une minorité, quoi.
Operator, number please. It's been so many years. She remembered my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost. And I am calling long distance. Don't worry about the cost. It's been 40 years or more now, Martha, please recall. Meet me out for coffee, where we'll talk about it all. Much older too. How's a husband and how's your kids? You know that I got married too. Lucky that you found someone to make you feel secure. 'Cause we were all so young and foolish. Now we are mature. That I still am. But all that really mattered then was that I was a man. I guess that our being together was never meant to be. And Martha, Martha, I love you, can't you see? Yeah.
Voilà, voilà, c'était une très belle balade de Tom Waits dans les oreilles loin du front sur FPP. On est toujours avec Patrick Coupchou, journaliste au diplôme et auteur de Un monde de fous, comment notre société maltraite ses malades mentaux. Donc on a vu, on a fait un petit retour historique sur l'évolution en fait depuis l'hôpital général où s'entassaient les pauvres, les criminels, les fous, jusqu'à la très belle invention qu'a été le secteur, cette révolution dans la conception de la maladie et du rôle des médecins. Et parlons aujourd'hui, puisqu'on doit aborder des sujets moins drôles, parlons de la situation actuelle, et notamment, par exemple, de ce que vous avez évoqué juste avant la pause, de cette médicalisation, de cette influence de la psychiatrie américaine.
Oui, alors ce qui s'est passé, je crois qu'il y a une conjonction de choses, parce que quand on fait une enquête comme moi je l'ai faite, on découvre des choses en marchant, bien entendu. Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu que d'abord, les fous, il y en a qui sont dehors, qui sont dans la rue. Vous avez aujourd'hui, parmi les SDF, 30% des SDF qui sont psychotiques. Alors, juste un tout petit arrêt là-dessus pour préciser les choses. Quand on dit qu'ils sont psychotiques, ça veut dire qu'ils étaient psychotiques avant d'être SDF. On est psychotique, on ne parle pas des gens qui sont déprimés parce qu'ils sont dans la rue. On ne parle pas des gens qui sont angoissés parce qu'ils sont dans la rue.
Oui, ça n'est pas dans la rue, la psychose. C'est pas une maladie.
Si vous voulez, n'importe qui serait... Moi, si j'étais dans la rue, je crois que je serais déprimé. Et puis vous aussi, j'imagine. Hein. On ne parle pas de ça. On parle des gens qui sont des psychotiques, c'est-à-dire des schizophrènes, des gens comme ça, qui sont délirants, qui se prennent pour je ne sais pas quoi, qui ont de personnalités, enfin bref, qui sont dans la rue. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie qu'ils sont à l'abandon. C'est-à-dire qu'avant, vous me direz, ils n'étaient pas à l'abandon, ils étaient à l'asile. Mais il n'empêche qu'ils sont à l'abandon. Ils sont dans la rue. Et moi, je les ai vus. Et quand vous allez... je suis allé, par exemple, à Nanterre, où se trouve le centre où le CHAPSA, où les SDF arrivent le soir. Si vous voulez, j'ai rencontré, par exemple, le psychiatre qui est le chef du service psychiatrique de l'hôpital, à qui on envoie des SDF le soir qui ne se sentent pas bien, etc. Il me disait que parmi... ces patients, effectivement, il a 30% de psychotiques. Les gens de Sainte-Anne qui travaillent sur le réseau souffrant psychique, précarité, etc., qui travaillent là-dessus, Mercuel, Alain Mercuel, je peux vous dire qu'Alain Mercuel, ce n'est pas un gauchiste échevelé. Hein. C'est loin de là. Mais il reconnaît aussi qu'il y en a 30%. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je pense que, encore que ça vaut le coup de s'étendre un peu là-dessus, parce que c'est aussi un tabou, et que c'est un tabou qu'on commence de faire un petit peu reculer. On commence à en parler, mais il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Hein. Donc ça, c'est la première constatation. Deuxième constatation...
Mais juste avant d'arriver à la deuxième constatation, est-ce que 30% de SDF se retrouvent... Enfin, 30% de psychotiques se retrouvent dans la rue, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris en charge du tout par le système psychiatrique.
Par personne.
Est-ce qu'ils ont été repérés à un moment ou à un autre de leur maladie, puis renvoyés dans la rue ou...
Ben, si vous voulez, je crois que... D'abord, je vais venir quand même à la deuxième chose avant de répondre à votre question, parce que la deuxième chose, c'est la prison. Mm-hmm. Donc la prison, si vous voulez, c'est la même chose. C'est qu'on s'aperçoit d'un seul coup qu'on a des grands délirants qui sont au mitard. J'ai une amie qui s'appelle Catherine Esberg, qui vient de faire un livre tout à fait saisissant, qui s'appelle « Histoire de fou » à prison de Fresnes. Elle a passé 4 mois à la prison de Fresnes. C'est absolument l'enfer. Alors on sait que les prisons françaises sont l'enfer, mais imaginez ce que ça peut être, un délirant mitard ou un délirant dans une cellule de 9 mètres carrés avec des délinquants ou je ne sais qui. Là aussi, il y a un tabou. Mais ça, c'est une constatation que moi, j'ai pu faire pendant l'enquête. La troisième constatation que j'ai pu faire pendant l'enquête, c'est que les familles également, on n'en parle pas souvent des familles, mais les familles, elles souffrent énormément parce qu'ils n'ont plus les structures. Moi, j'ai rencontré des gens... qui vivent avec un psychotique et qui ne savent plus quoi faire parce que personne ne s'occupe d'eux. Donc si vous voulez, ça c'était le constat. Alors la question du pourquoi, mais évidemment qu'elle est compliquée, la réponse est compliquée. Parce que si vous voulez, on a fermé des lits, on a réduit l'asile. Mais en face de ça, on aurait dû construire... élaborer des solutions dans la ville. On parlait des CMP tout à l'heure, on parlait des CATTP, des centres où les gens viennent faire des activités.
Centre d'aide par le travail.
Quelque chose comme ça. Je n'ai pas le truc en tête, mais c'est effectivement dans le glossaire. Mais c'est là où on vient, on fait des activités, etc. Bon, il y a toute une série de choses qui existent, mais qui sont insuffisantes. Mais je crois que sur le fond, parce que ça, c'est les choses de surface. Sur le fond, je crois que c'est notre société qui a changé. C'est-à-dire qu'en gros... On a tout individualisé. Tout est abordé du point de vue de l'individu. Et non seulement tout est abordé du point de vue de l'individu, mais tout est abordé du point de vue de l'individu qui est en concurrence avec d'autres individus dans tous les aspects de sa vie, et qui est responsable de sa propre vie, de sa propre santé, de sa propre prévention, etc., etc. Dans la mesure où ça domine le fou, on le regarde plus de la même façon, c'est-à-dire que le fou, on lui demande, y compris à lui, d'être un individu qui doit être responsable et qui doit faire ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Il y a une injonction d'insertion, hein. Il y a un truc qui est complètement, complètement fou quand on y songe, hein. Et ça, je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Par exemple, moi, j'ai rencontré des experts psychiatres qui travaillent dans les tribunaux. Et les types me disent, mais on a des psychotiques qui ont été condamnés par des cours d'assises, parce que la cour d'assises a considéré que comme ils avaient arrêté leurs médicaments, ils étaient responsables de leurs actes. Ce qui signifie quoi ? C'est que quand vous connaissez un peu la maladie mentale, on parle de la psychose, vous savez que l'un des premiers symptômes, c'est le déni, c'est ce qu'on appelle le déni de la pathologie. C'est-à-dire que le type dit, ben moi je suis Napoléon, mais je suis pas malade, je suis normal, je suis Napoléon, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Donc condamner un type parce qu'il a arrêté ses médicaments et le juger comme responsable, c'est une aberration absolue du point de vue du rapport qu'on doit avoir à la maladie mentale. C'est la fameuse discussion, les fameuses campagnes idéologiques y compris, pour juger les fous, pour les mettre en prison, pour les responsabiliser quand ils ont commis quelque chose de grave. Je donne dans le bouquin, par exemple, l'exemple de la commission Burgelin. Jean-François Burgelin, c'est un gros bonnet de la Cour de cassation. On lui a confié une mission pour réfléchir à la responsabilité des malades mentaux, etc. Dans lequel il y avait d'ailleurs une psychiatre, qui est quand même assez étonnant, enfin bref, qui avait travaillé dans les prisons. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit ce type-là ? Qu'est-ce qu'il propose ? Il propose des tribunaux pour fous. Au nom de la victime, les victimes doivent faire leur deuil. C'est complètement délirant. On se demande où sont les fous. Mais les victimes doivent faire leur deuil, et pour faire leur deuil, même si le type ne sait plus où il est, même s'il est complètement à l'ouest, on va quand même le juger pour que la victime fasse son deuil. Soit dit en passant, ce qui remet en cause, y compris la mission de la justice. La justice, c'est fait pour juger quelqu'un qui a commis un acte, c'est pas pour que la victime fasse son deuil. Vous voyez, déjà là, il y a déjà des choses sur lesquelles on pourrait réfléchir. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est vrai que c'est compliqué de juger en cour d'assises, on ne sait pas s'il est responsable, s'il est lucide, pas lucide, donc on va créer des tribunaux pour fous. Alors après, on vient nous dire que c'est au nom de la citoyenneté, mais alors si les citoyens, on le met dans une juridiction à part, c'est-à-dire qu'il n'est pas tellement citoyen, c'est-à-dire qu'il est quelque chose ailleurs. Puis la deuxième chose qu'il propose, c'est des centres de rétention au nom de la lutte contre la dangerosité. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, vous sortez de prison ou vous sortez de l'asile, parce que ça vaut pour les deux. Des experts vous expertisent, comme une voiture, vous savez, dans un garage. Et si l'expert juge que vous êtes dangereux, on vous enferme dans ce centre pendant un an, y compris renouvelable. C'est ce qu'il propose. Ça veut dire qu'on propose d'une façon tout à fait sérieuse d'enfermer des gens qui n'ont rien fait, des gens qui n'ont rien fait, dont on juge simplement qu'ils sont dangereux. Alors, les propositions de ce type ont été écartées provisoirement parce que il y a les élections et puis ça a remué quand même un petit peu dans tous les milieux à la fois sociaux et de la psychiatrie. Mais je veux dire, on va jusque là, Donc, vous voyez, je pense que là-dessus, il y a une vision de la folie qui est en train de changer et une vision de la folie qui n'a plus rien à voir avec la vision qu'avaient de Bonafé, Houry, Daumaison et tous ces gens-là. C'est ça qui est fondamentalement en train de changer.
Il y avait déjà une évolution à l'œuvre avec la réforme du Code pénal en 1994, qui revenait justement sur l'irresponsabilité juridique du fou, et qui, ça rejoint ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, qui reconsidérait le malade mental comme responsable s'il était considéré comme conscient au moment de l'acte, simplement au moment de l'acte.
En fait, vous avez un article, l'article 122, je crois, si ma mémoire est bonne, qui a deux alinéas. Premier alinéa, on dit il avait au moment des faits son discernement aboli. Et dans le deuxième, ou c'est l'inverse, je ne me souviens plus très bien, peu importe, dans le deuxième, il avait son discernement altéré. Donc dès le moment où il est aboli, on en revient à ce qu'on faisait avec l'article 64 de la loi 1838, qui était l'article de l'aliénisme. On dit, il est fou, il n'est pas responsable, on l'envoie à l'asile. Sauf qu'il n'y a plus d'asile, comme à l'époque. Je reviendrai sur l'article 64, ça me semble important. Deuxième chose, son discernement est altéré au moment des faits. Ça veut dire qu'il peut être jugé. Donc c'est un retour. Alors il y a une remise en cause. L'article 64, juste une précision, l'article 64 de la loi de 1838, la loi de 1838 qui a créé les asiles, un asile par département, etc. Donc la loi de l'article 64 disait que l'aliéné avait perdu complètement son il était dément, quoi, et que donc il pouvait pas être jugé, et que donc on l'envoyait à l'asile. Ce qui veut dire que les psychiatres les plus progressistes, toutes les écoles les plus progressistes de psychiatrie, ont toujours lutté, bon affaire en tête, contre cet article 64. Vous avez, par exemple, les textes de Althusser. Vous savez qu'il y a Louis Althusser qui avait tué sa femme dans une crise de démence et qui s'est retrouvé à Sainte-Anne. Il y a des textes d'Althusser là-dessus qui sont très intéressants, qui dit quand on vous met à l'asile, c'est comme si on vous mettait sous une pierre tombale. On est les disparus. Et en parlant des fous, il parlait des disparus. Donc il y a eu une lutte des secteurs les plus progressistes contre cet article 64. Pour quelle raison ? Bah, tout simplement que, un, on ne reconnaissait pas effectivement l'humanité, et là on retrouve ce que je disais tout à l'heure, l'humanité du fou, même du fou criminel, même du fou qui a fait un délit, et que l'article 64, c'était vraiment l'article de l'asile. Parce que quand vous étiez considéré comme irresponsable, on vous envoyait pas au tribunal ou en prison, mais on vous disait en asile, à l'asile, c'est pas mieux. C'était pas mieux. Donc il y a eu toute une campagne pendant des années pour remettre ça en cause. Là aussi, on est dans des choses qui sont en train d'évoluer par rapport au contexte actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On remet en cause ça. Bravo, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe réellement ? C'est-à-dire que l'abolition, c'est-à-dire le côté discernement aboli, première alinéa, il y en a de moins en moins. Quand vous regardez les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais ils sont dans le bouquin. Quand vous regardez les chiffres, c'est en descente vertigineuse d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que de plus en plus, les experts disent, quel que soit le crime qui a été commis, quel que soit le délit, ils disent le discernement a été altéré. Donc les types se retrouvent devant un tribunal. Et le truc extraordinaire, et Jean-François Burgelin le reconnaît dans son rapport, c'est que le type dont on a dit que son jugement a été altéré, il est la plupart du temps condamné plus lourdement que la normale. Par exemple, je donne un exemple dans mon bouquin d'un parricide, schizophrène qui a tué son père, où je crois on demande 6 ans, on lui colle 10. Et c'est tout le temps comme ça. Et Burgeon le reconnaît officiellement dans le rapport.
— Ça, c'est lié à quoi ?—
C'est lié au fait que, si vous voulez, le tribunal... Il y a plein de choses. Hein, mais en gros, le tribunal, le jury, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent qu'il n'y a plus d'asile. Dangerosité. Donc je vais prendre la responsabilité de mettre ce type dans un service ouvert de psychiatrie. Le service ouvert de psychiatrie, il n'en veut pas. Parce qu'il est débordé, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas d'infirmiers, parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce que c'est le cirque. Donc il n'en veut pas. Les allers-retours entre la prison, les types qui pètent les plombs, la prison et l'hôpital, c'est terrifiant. Je parlais de Catherine Esberg, elle raconte ça. Par exemple, entre Fresnes et Villejuif, le type pète les plombs dans la cellule, on l'envoie en HO, c'est-à-dire en hospitalisation d'office, à Villejuif. 8 jours après, il revient. Et puis les types de Villejuif lui disent mais il est soigné, vous pouvez le reprendre. Et puis le type, il le remet dans la cellule et puis il délire autant, parce qu'ils ne veulent pas le garder. Donc qu'est-ce que disent les tribunaux, les jurés ? Ils disent, on va le foutre en tôle. Au moins, on sera sûr qu'il sera tranquille. Et en plus, depuis quelques années, il y a des services de psychiatrie en prison. Donc ça permet aux gens d'avoir bonne conscience en disant, mais il y a des psychiatres en prison, donc on va les soigner. Et on voit le résultat, c'est-à-dire qu'on a 40% de fous dans les prisons et que les psychiatres qui sont dans les prisons s'arrachent les cheveux parce qu'ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à les soigner. Donc si vous voulez, vous avez ce truc absolument hallucinant, que vous avez un discernement qui a été altéré, qui devrait être
une clause de... Oui.
Voilà, ça devrait être une circonstance atténuante, c'est le mot que je cherchais. Et qu'en fait, c'est une circonstance aggravante. Donc les types se retrouvent en prison. Et en prison, qu'est-ce qu'ils font ? C'est encore pire que l'asile. C'est-à-dire qu'ils sédimentent complètement leur maladie et qu'il n'y a plus aucune issue pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a déjà pas d'issue pour un détenu aujourd'hui en prison, en France, pour se réinsérer, pour trouver une solution. Un type qui n'est pas malade, mais un type qui est malade, imaginez ce que ça peut donner. Donc voilà la situation. Et ça, c'est bien sur le fond le changement de vision de la folie qui est en cause.
On pourrait se dire que simplement une nuitée en prison coûte moins cher qu'une nuitée en hôpital psychiatrique. Et je pense que ça joue aussi dans le choix.
Oui, ça joue aussi, bien sûr, ça joue aussi. Les questions d'argent jouent toujours, puisque l'argent est toujours le thème plus important que l'humanité dans cette affaire. Quoi. Oh,
Voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et nous parlons de psychiatrie avec Patrick Coupchou. Juste avant la pause, nous parlions d'évolution de la façon dont le fou était considéré dans la société. Et justement, Bonafé disait qu'on jugeait le niveau de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses marges, ses fous et ses déviants. Alors justement, aujourd'hui, comment les fous sont-ils considérés, puisque d'après vous, on les voit essentiellement dans la rue et dans les prisons?
Si vous voulez, ils sont considérés comme sont considérés les individus aujourd'hui. C'est-à-dire, les individus, comment ils sont considérés aujourd'hui par le système néolibéral? Ils sont considérés comme des agents économiques, consommateurs, en concurrence, ce que je disais tout à l'heure. Donc le fou, finalement, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On se dit... je reviendrai sur le changement de vision, je pense que c'est important. Mais qu'est-ce qu'on dit en gros? On dit, d'abord, il faut faire face à la folie. Ça a toujours été vrai. La folie a toujours été perturbatrice, elle a toujours été inquiétante, donc c'est toujours vrai. Faire face à la folie, mais faire face à la folie alors que l'asile, tel qu'il existait et qu'il était bien pratique finalement, n'existe plus. Il existe encore, mais plus de la même façon, plus sous la même forme. Donc il s'agit, pour faire face à la folie, de la neutraliser. Mais de la neutraliser dans un système ouvert et non plus dans un système fermé. Avant, on mettait les gens derrière les murs et puis voilà, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, ils rentrent, ils sortent, ils vont. Bon. Alors comment on fait? On dit d'abord... Il y a la crise. Donc la crise, il faut y faire face. Comment on y fait face? On y fait face avec l'hôpital. L'hôpital, y compris vu sous l'angle des urgences. C'est-à-dire l'urgence comprise comme l'urgence somatique. C'est-à-dire vous pétez un plomb, vous allez à l'hôpital, on vous dit « Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème, on va vous faire une ordonnance. S'il faut, vous pouvez rester 15 jours ou 3 semaines à l'hôpital, il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. Et puis quand vous irez mieux, dehors. » Donc voilà la première réponse. Et l'histoire des urgences est une histoire qui agite beaucoup la psychiatrie, en particulier la psychiatrie, les milieux les plus progressistes de la psychiatrie, parce que vous avez eu des gens qui, dès le début des années 90, ont fait des rapports au ministère. Je pense à Masson, par exemple, Gérard Massé, qui est un psychiatre de Sainte-Anne, et qui lui dit qu'il faut faire les urgences. Donc si vous voulez, ce que je crois, c'est que l'urgence, l'hôpital, le médicament, le médecin tout puissant avec son ordonnance, c'est pour faire face à la crise. Vous pétez les plombs, vous êtes dangereux, vous êtes perturbateur, on vous envoie à l'hôpital. Quand ça va mieux au bout de 8 ou 10 jours ou 15 jours, on va surtout pas s'ennuyer à vous garder. Vous coûtez cher, on n'est plus à l'asile, bon monsieur, la liberté. En plus, la liberté vient nous amener un petit peu un supplément de quelque chose de bien, au moins une façade, puis on vous met dehors. Sauf que si vous voulez, la maladie mentale, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre deux crises, elle existe toujours. Et il y a ce qu'on appelle la chronicité, c'est-à-dire l'aspect chronique de la maladie. Qu'est-ce qu'on fait? Le système, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est pas l'hôpital qui va prendre, parce que de toute façon, l'hôpital, ça lui coûte trop cher. Et dans la concurrence, vous savez, il y a eu des réformes, hôpital 2007, etc. Donc ça touche aussi les psychiatriques. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer ça au médico-social. Alors médico-social, c'est les masques, vous savez, les maisons, je ne sais plus comment on appelle ça. Et puis le social. Donc on est en train de couper les choses en deux grands morceaux. D'un côté, l'hôpital pour faire face à la crise, et de l'autre côté, les associations. Et on aboutit à quoi? On aboutit au fait que les deux ne parlent plus. Et donc il y a une remise en cause d'un grand principe du secteur, qui était ce qu'on appelait la continuité des soins. C'est-à-dire que ces gens-là, il a fallu qu'ils se battent pendant des années pour convaincre les politiques en particulier que c'est pas parce qu'on sortait de l'hôpital psychiatrique, on était soigné. Donc il fallait que l'équipe continue à soigner dans la ville, etc. Donc ça s'est remis en cause, puisque c'est plus les mêmes personnes qui s'en occupent. Et puis on aboutit aussi à cette chose terrifiante, c'est qu'en fait le social, c'est la charité, au bout du compte. Moi, je l'ai vérifié dans l'enquête que j'ai faite. J'ai vu, moi, des gens qui sont à la charge du Secours catholique, d'Emmaüs, de l'Armée du Salut, qui vivent dans des hôtels à Paris. Vu ça, hein, s'il suffit de descendre dans la rue puis d'aller voir ça, c'est à notre porte. Dans des hôtels d'urgence, où ils ont la visite d'un infirmier tous les 15 jours pour renouveler les médicaments, pour voir si tout se passe bien. Mais on ne peut pas dire qu'il y a du soin. Donc si vous voulez, on gère en gros comme ça, sur ces deux jambes, à la fois l'hôpital, avec les courts séjours et le médicament. Et vous imaginez que les labos pharmaceutiques, ils se frottent les mains de ce point de vue, pour la crise. Et ensuite, le social, voire la charité de plus en plus, pour entre deux crises. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est un double intérêt, parce que d'un côté, si on arrive à le mettre en place, bien entendu, on gère ça bon ou mal an. Si les malades, si les fous ne perturbent pas, eh bien, tout va bien. Alors là-dessus, on surrajoute d'autres choses. Par exemple, la notion de réseau. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre, on ne peut pas faire un pas dans la rue sans qu'on tombe sur un réseau. On est cerné par les réseaux. Voilà, c'est pareil, il faut un réseau dans un quartier. Alors le réseau, c'est quoi? C'est les flics, c'est la mairie, c'est toute une série de gens qui se réunissent avec le secteur et qui voient où on en est, monsieur un tel, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient, etc. C'est une sorte de contrôle social, au bout du compte, qui n'a rien à voir avec l'implantation de Bonafé. L'implantation de Bonafé, c'était on est dans le quartier, on vit avec les gens, on vit avec tous les gens, on tisse des liens tous les jours que Dieu fait, on tisse des liens, et le malade mental est au milieu de tout ça. Et l'équipe fait partie de la population. Là, c'est pas ça, c'est un réseau d'institutions, y compris il y a les flics, hein, n'oublions pas que les flics y sont, et on fait un véritable contrôle social. Il faut que tout ça soit calme. Ça se passe comme ça. Donc ça, c'est le premier aspect, la façon de gérer la folie. Le deuxième aspect, c'est la criminalisation de la folie. C'est-à-dire qu'en gros, la folie, il faut qu'on la neutralise. En même temps, on a parlé des lois Sarkozy tout à l'heure avec le rôle du maire, le fait que le maire pourra envoyer des équipes de force chez les gens qui veulent pas se soigner, enfin, toute une série de douceurs de ce genre. Donc tout ça est lié, criminalisation de la folie, dangerosité et donc neutralisation. Et en même temps, bien, une neutralisation plus générale et plus douce, mais de toute façon, on arrive au même résultat. Et puis le dernier aspect, je crois, qui est important, c'est que tout ça ne doit pas coûter. Ça doit coûter le moins possible. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait d'hôpital 2007, les tarifications à l'acte. Vous savez, vous faites une perf, c'est un acte. Vous faites un accouchement, c'est un acte. Ben, on veut faire la même chose en psychiatrie, vous imaginez? Qu'est-ce que c'est un acte en psychiatrie? C'est un électrochoc, c'est la prise de médicaments, et puis c'est une réunion tous les deux jours avec le psychiatre pendant 10 minutes. C'est une idiotie, c'est une aberration. La psychiatrie, c'est la relation de tous les jours. C'est un sourire, comme disait Jean Houry. Jean Houry, il dit toujours ça, il dit, mais un sourire, c'est très important en psychiatrie, mais un sourire, ça ne se mesure pas. Donc, si vous voulez, il faut que ça coûte le moins cher possible, et tout ça est géré d'une façon totalement technocratique, avec des accréditations, des évaluations, enfin, j'en passe, c'est des meilleures, des plus sanglantes. Donc, si vous voulez, le sous-bassement de tout ça, je crois, c'est que, je le disais tout à l'heure, c'est la vision qu'on a de la folie qui change. Alors, on n'est pas en train de dire, parce qu'on est quand même dans une civilisation, enfin, dans un monde civilisé, démocratique, etc., etc., donc on n'est pas en train de dire que les fous ne sont pas des hommes. Jamais on se permettrait de dire ça. Mais en fait, tout concourt à faire en sorte qu'ils ne soient plus considérés comme des hommes. Qu'est-ce qui concourt à ça? Un, à mon sens, la vision bio de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui domine aujourd'hui, et ça a souvent été le cas en France, hein, c'est pas simplement la faute des Américains, mais la puissante psychiatrie américaine, avec son influence, avec son DSM, qui est le manuel de la psychiatrie internationale aujourd'hui, qui a été élaboré par les Américains.
C'est quoi le DSM? Est-ce que vous pourriez expliquer?
Le DSM, c'est un manuel. C'est le manuel que les psychiatres, ils ont dans certains pays, c'est obligatoire. Je crois qu'en France, ça l'est pas encore, mais ça va pas tarder. C'est un manuel de psychiatrie dans lequel on définit toutes les maladies avec les symptômes. Et à la limite, il suffit de prendre un stylo, poser la question, est-ce que vous avez des délires cette nuit? Vous avez des délires. On met une petite croix. Et en fait, on aboutit à des profils. Mais ça fait hurler les psychiatres progressistes qui disent, mais la personne que je reçois dans mon cabinet n'est pas un profil. La personne, c'est une personne. C'est pas simplement... Alors, il faut dire que le DSM, ça a été mis en route au départ parce qu'il voulait faire un peu de recherche et puis un petit peu avoir un langage commun entre tous les psychiatres, ce qui n'était pas du tout forcément négatif. Mais ensuite, vous avez eu les compagnies d'assurance qui ont mis le nez là-dedans en disant, nous, on ne remboursera que les symptômes et les syndromes et les maladies qui sont, les pathologies qui sont définies dans le DSM. Vous avez l'industrie pharmaceutique qui s'est dit, mais j'ai inventé une nouvelle molécule, inventons une maladie qui correspond à la molécule. Je vais vous donner un exemple, c'est un exemple qu'on donne toujours, je n'ai pas beaucoup de talent pour le dire, mais bon, l'hyperactivité chez les enfants, par exemple. Bon, l'hyperactivité chez les enfants, on en a fait une maladie dans le DSM, c'est une pathologie. Et en face, il y a la Ritaline, comme par hasard. Donc il y avait la Ritaline, et il y avait un symptôme qui pouvait être le symptôme de diverses pathologies, on en a fait une pathologie en soi, et on vend de la Ritaline, et je le disais encore dans Le Monde il y a quelques jours, que la Ritaline se vend comme des petits pains et qu'on est en train de droguer des gosses aux États-Unis, et qu'en Europe, il y a un projet de directive qui permet qu'on fasse la même chose ici, en France et en Europe. Donc vous voyez, le DSM, c'est tout ça. Ça se base sur quoi? Ça se base sur l'idée que finalement, La maladie mentale, ça vient du cerveau, et ça vient du système nerveux, et ça vient de la génétique, etc. Et que simplement, il faut laisser le temps à la science d'aller chercher les causes de tout ça. Or, quand on y songe, à la limite, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas capable de dire si demain, on ne va pas trouver une série de gènes avec une interaction avec des environnements complexes qui fait qu'à un moment donné, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf que ça, quand vous réduisez la maladie mentale à ça, un, vous la réduisez à une maladie qui serait une maladie comparable à une maladie somatique, ce qui est déjà premièrement, première chose, un petit peu douteuse. Mais surtout, ça permet d'évacuer. Si vous en tenez à ça, ça permet d'évacuer tout le travail de lien qu'il faut faire avec le malade. C'est-à-dire que des gens comme Jean Houry ou Bonafé, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils disaient la maladie mentale, c'est à la fois, ça peut, effectivement, Houry s'est beaucoup intéressé au problème de la bio, du système nerveux, etc., bien sûr. Ça peut être effectivement des causes biologiques, etc., mais on n'est quand même pas prêt de savoir. Et c'est quand même une complexité telle qu'on n'est pas prêt de se dire, vous avez une schizophrénie, je vais vous donner des médicaments, puis on vous soigne comme ça, c'est une idiotie. Il disait, il y a ça, il y a l'aliénation sociale, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans les liens que le malade a avec son environnement, etc., ce qui peut être cause d'aliénation. Et puis il y a aussi, ce que je disais tout à l'heure, le psychisme, la psychopathologie. Donc vous retrouvez là-dedans les progrès de la science, pourquoi pas, la science, y compris les neurosciences, etc. Vous retrouvez toutes les sciences humaines, et à l'époque le marxisme, mais toujours, parce que sur l'aliénation, Marx a écrit des choses extraordinaires. Et puis vous retrouvez Freud, c'est-à-dire la psychanalyse. Aujourd'hui, les deux derniers pans de l'affaire ont été évacués pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer, mais qui tiennent à l'évolution historique, etc. Le marxisme, les sciences humaines et la psychanalyse ont été mis de côté. Et on dit, ben maintenant, il n'y a plus que la biologie. Alors, un, c'est une aberration, probablement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des recherches, encore une fois, sur le système nerveux ou la génétique, mais comparer un malade mental à quelqu'un qui aurait une gastro-entérite, c'est une aberration. Et deux, surtout, et c'est là où ça devient très problématique, c'est qu'une telle vision, liée à une vision idéologique néolibérale, managériale, technocratique, qui vise à tout organiser, à tout rationaliser, à tout optimiser, comme ils disent dans leur langage de barbare, ça a des conséquences tragiques. C'est-à-dire qu'on ne considère plus le malade mental comme une personne qu'il faut écouter, dont il faut aller chercher dans l'histoire, dans les relations qu'il peut avoir pour l'aider. On se trouve face à un profil tel qu'il est défini dans le DSM. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour schématiser ? On va lui donner des médicaments pour le calmer. Et puis qu'est-ce qu'on va s'emmerder à aller faire du travail social, relationnel avec lui, puisque les causes sont dans le système nerveux et dans le cerveau. Donc attendons que la science nous ait donné la clé. Et puis, quand elle nous aura donné la clé, on donnera le médicament qu'il faut, etc., etc. Donc, si vous voulez, vous avez la concordance entre la conception étroitement biologique de la maladie mentale, l'idéologie néolibérale, technocratique dont je viens de parler, et le poids extraordinaire de l'industrie pharmaceutique. Il ne faut pas oublier que l'industrie pharmaceutique, c'est elle qui forme aujourd'hui en France, dans la formation permanente, les psychiatres, les infirmiers, les soignants. C'est elle qui organise. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus d'argent pour organiser les formations dans les hôpitaux. Mais c'est l'industrie pharmaceutique qui le fait. Toute la vision biologique est évidemment tenue, pour des raisons évidentes, de fric par l'industrie pharmaceutique. Donc la conjonction, de ces trois facteurs-là, fait qu'on retrouve des fous dans la rue. Fait qu'on retrouve des fous en prison, fait que finalement le fou n'est plus une personne, n'existe plus, et que finalement il est considéré comme la mère de famille angoissée qui vit avec ses deux enfants, et qu'on met tout ça sur le même plan, etc., etc.
Mais justement, à propos de la mère de famille angoissée, il y a dans une des évolutions profondes de la psychiatrie, oui, cette notion de santé mentale, oui, quoi, qui de plus en plus tend à se substituer à celle de la psychiatrie.
Oui, tout à fait. Ben, si vous voulez, moi j'ai un peu là-dessus une opinion, mais ce n'est qu'une opinion, parce que quand même, ça agite beaucoup le secteur, hein, si je puis dire, la psychiatrie. Moi, à mon sens, il y a deux phénomènes qui sont distincts. Il y a deux choses qui sont distinctes. Il y a la maladie mentale. Vous savez par exemple que la schizophrénie, c'est à peu près 1% de la population. Mais c'est 1% de la population tout le temps. Quelle que soit l'histoire, quelle que soit la période historique, quel que soit le pays, c'est toujours 1 ou 2% de la population. Donc vous avez la maladie mentale. Et c'est vrai que les frontières, on en parlait tout à l'heure, les frontières sont parfois difficiles à définir. Mais bon, elle existe quand même, cette maladie mentale. J'ai rencontré quelqu'un au centre, le psychiatre du centre d'accueil de crise de la rue de la Roquette, à côté de la Bastille, où ils ont mené une lutte pour empêcher la fermeture. Je pense que vous êtes au courant de ça. Il me disait, c'est vrai que la frontière entre quelqu'un qui est fou, qui n'est pas fou, elle est difficile, et c'est tout à fait la réalité. Mais il dit, quand vous arrivez, vous voyez arriver un type à 3h du matin qui est en plein délire, il n'y a pas photo. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, je crois que la maladie mentale est une chose, et depuis quelques années, enfin depuis 20 ou 25 ans, on a un phénomène qui est en train de prendre une ampleur inédite, qui est ce qu'on appelle la souffrance psychique. Et la souffrance psychique, pour être rapide et schématique, c'est quoi ? Ben c'est l'époque cassée du libéralisme, de cette société de fous dans laquelle on est, où l'individu n'est plus dans les solutions. Enfin, là, je ne vais pas me lancer dans tout ça, parce que c'est un peu compliqué. Mais ce serait un peu long. Mais je veux dire où l'individu est seul. Ehrenberg, qui est un des sociologues que j'ai convoqué dans ce bouquin, il dit l'individu est libre, mais il est seul. Donc l'individu est seul, il est en concurrence dès lors qu'il s'agit de l'école pour ses gosses, dès lors qu'il s'agit du logement, dès lors qu'il s'agit du boulot, dès lors qu'il s'agit de perdre son boulot, dès lors qu'il s'agit de travailler. Par exemple, vous avez des gens comme Christophe Dejour qui travaillent sur la souffrance au travail. C'est des choses qui deviennent massives. Et pour vous donner un exemple du problème que pose au système cette souffrance, l'OMS dit qu'il y a à peu près 30 millions de journées de travail qui ont été perdues en 2000 ou en 2002 en France, uniquement à cause des déprimes, des angoisses, des arrêts de travail, etc. Donc le système, qu'est-ce qu'il a ? Il est face à ce problème. Et qu'est-ce qu'il fait pour faire face à ce problème ? Il psychiatrise, il sanitarise, il médicalise. Et le DSM est une médicalisation d'existence. Je vous donne juste un exemple. Le DSM, quand vous perdez quelqu'un, votre père, votre mère, votre femme ou votre cousin, vous avez du chagrin, vous êtes en deuil, le DSM dit le deuil doit durer 3 mois. Au-delà de 3 mois, c'est une pathologie. S'il y a au-delà d'une pathologie, on vous donne des médicaments. Et puis il y aura bien un laboratoire pharmaceutique qui vous donnera des médicaments pour passer. Donc tout psychiatriser, tout médicaliser pour réguler le système. Le système a besoin de ça pour se reproduire. Sinon, on va aller vers des choses qui risquent d'être dangereuses. On l'a vu en novembre 2005 dans les banlieues, ce qui s'est passé. Donc on voit bien qu'il peut y avoir par moment le grain de sable qui enraye la machine. Donc pour se reproduire, il a besoin de ça. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il abandonne la psychiatrie et il dit « Allons vers la santé mentale qui est la réponse à cette souffrance psychique. » Et le psychiatre doit être partout. Il doit être partout. Il est convoqué partout, y compris dans les cellules psychologiques. Et vous marchez sur une peau de banane dans la rue, on convoque une cellule psychologique. Le bien-être des bobos à vélo dans les rues de Paris. Enfin, tout. Ils sont convoqués partout. Mais ils sont surtout convoqués, comme la médecine générale, à faire face à la tragédie. Parce que parfois, c'est une tragédie de la souffrance. Et cette souffrance, elle naît de la compétition, elle naît du chômage, elle naît de la violence de nos sociétés. Et quand Bonafé dit, ce que vous disiez tout à l'heure, quand Bonafé dit on mesure le gré de civilisation d'une société à la façon dont elle traite ses marges, c'est une phrase géniale, c'est une phrase je suis parti de cette phrase-là, on va faire l'enquête, parce que ça veut dire qu'une société comme la nôtre, dans son discours, dans sa façon d'être, elle se masque, elle se travestit, elle se déguise, et elle donne le change. Quand vous allez voir les fous, elle ne peut plus donner le change. Quand vous avez un fou psychotique à 3h du matin, comme moi j'ai vu, dans Paris, en train de crever, là, elle ne donne plus le change. Et la réalité de la violence des rapports sociaux dans cette société, qui sont masqués, par ailleurs, y compris avec un discours public relié par des moyens de communication de plus en plus puissants, etc., on vit dans deux mondes. Mais la réalité des tensions, la réalité des violences, la réalité des violences faites aux gens, c'est dans la folie et dans l'abandon de la folie que vous la touchez du doigt. Et je peux vous dire que la phrase de Bonafé, je l'ai retournée et que je pense, après un an et demi d'enquête, qu'on ne vit pas dans une société civilisée. Ça, c'est clair.
Par rapport à, justement, pour terminer là-dessus, puisqu'il nous reste très très peu de temps, sur ce que vous appeliez justement la criminalisation du fou, il y a actuellement le projet de loi sur la prévention de la délinquance de Sarkozy qui est discuté. Est-ce qu'on pourrait parler de ça ? Et justement, est-ce qu'on pourrait parler de... Est-ce que le fou est réellement dangereux ?
Est-ce que... Mais le fou, il n'est pas plus dangereux que vous ou moi ? Il y a des fous qui coupent la tête des gens, ça c'est clair, c'est arrivé à Pau, on le sait, c'est affreux, c'est tragique, c'est une horreur, mais quand vous regardez les chiffres, et là pour une fois, je crois que tous les psychiatres sont d'accord, ce qui est quand même assez rare, en général ils ne sont pas d'accord, mais ils le disent. Ils disent si vous prenez la population des malades mentaux ou la population normale, il y a moins de crimes dans la population des malades mentaux que dans la population normale. Mais là où je veux dire une chose, c'est que quand il y a un crime, vous prenez le crime de Pau, vous prenez le crime du type qui a poussé la personne dans le métro... Les psychiatres disent, enfin ceux que je connais et ceux que j'aime bien, les houris, les gens comme ça, qui sont mes amis, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent c'est toujours quand il y a eu rupture du lien. Quand on parlait de continuité des soins, c'est la continuité, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps être là, il faut tout le temps être là pour que le lien existe, parce que la schizophrénie, la psychose, c'est la rupture du lien. Et la rupture du lien, elle peut mener à n'importe quoi, effectivement. Elle peut mener au crime, elle peut mener à des choses épouvantables. Quand vous avez une chose comme ça, de toute façon, il y en aura toujours. Il y en a toujours eu. Je veux dire, la folie, c'est aussi ça. Je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien voir les choses en face. Mais ça ne mérite sûrement pas une loi pour mettre tous les fous en prison. Sûrement pas. Ce que ça mériterait, c'est au contraire de redévelopper, de repartir sur une politique comme celle du secteur, du désaliénisme, de suivi, d'humanité, etc., etc., etc. Mais ça, pour ça, il faudrait que la société soit prête à le faire. Parce que notre société n'est pas prête à faire ça.
Voilà, c'était Patrick Koupchou qui parlait avec nous de la psychiatrie. Vous pouvez lire son bouquin qui est très éclairant sur justement sur toutes ces questions qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc, Un monde de fous, comment notre société maltraite ces malades mentaux, c'est paru au Seuil. C'est très bien présenté dans les bibliothèques si jamais vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Donc, il n'y a pas de souci. Enfin, il est très emprunté, je crois, actuellement. Mais... Ou bien volez-le, oui. Enfin, bon, il faut pas trop qu'on le dise. Mais voilà, merci. Merci beaucoup, Patrick Koupchou.
Ben, merci à vous.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Et oui, donc cette semaine, dans l'équipe de dingue qui a dirigé l'émission, on pouvait retrouver Juliette. Juliette qui passe ses journées à produire des mixages de bruit d'une longueur, mais alors d'une longueur. Et puis il y avait aussi Pierre qui nous revient de son voyage initiatique. Il parle maintenant une langue qu'il est le seul à comprendre et il s'est donné pour mission de devenir le sosie de Bertrand Cantat. Il y avait aussi l'autre Juliette qui ouvre les bières avec ses dents et mange les capsules. Il y avait enfin Guillaume qui se terre dans un silence mutique en abandonnant sa chronique, son dernier lien avec le monde social. On vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission sur loldf.org et également pour les plus fétichistes d'entre vous, vous pouvez la réécouter complètement avec les chroniques du début, les ratés de Pierre, etc. vendredi de 12h30 à 14h.